Aspetta che sono fatto qua. Patria, patria. Ula. Bien, ben bonjour, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. La dernière fois que je suis intervenu, en fait, lors de la prédication, on a étudié ensemble la vocation du prophète Ézéchiel. On avait lu donc le chapitre 2 et on avait vu que Dieu appelle le prophète Ézéchiel à annoncer sa parole. Tu diras à Israël, voici ce que dit l'Éternel. Et on avait vu aussi que Dieu avait dressé un profil du peuple comme étant un peuple rebelle, qui n'écoute pas, qui a le cœur dur et obstiné. Aujourd'hui, on va lire une partie du chapitre 20. Le passage que nous lisons aujourd'hui intervient à une phase où les responsables d'Israël, donc en déportation, viennent consulter le prophète Ézéchiel. Donc c'est une délégation des chefs du peuple qui viennent le consulter. Et les trois premiers versets du chapitre 20 nous disent, donc Ézéchiel chapitre 20, versets 1 à 3, Ézéchiel 20, versets 1 à 3, le dixième jour du cinquième mois de la septième année, quelques responsables du peuple d'Israël vinrent consulter l'Éternel. Ils s'assirent devant moi. C'est le prophète qui parle. Alors l'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Donc c'est Dieu qui parle là par la bouche du prophète. Fils d'homme, parle aux responsables du peuple d'Israël et dis-leur. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Vous osez venir me consulter. Aussi vrai que je suis vivant, je ne me laisserai pas consulter par vous. Le Seigneur l'Éternel le déclare. Voilà ce qu'on peut appeler un dialogue de sourds. Dieu les invite à écouter sa parole. Eux aussi, ils souhaitent que Dieu écoute leur parole et Dieu refuse. C'est ce qu'on appelle un dialogue de sourds. Dieu ne va pas les écouter. Dieu ne va pas écouter cette délégation des responsables du peuple, mais Dieu va leur adresser à son tour une parole. Et c'est ce qu'on va lire en ce matin, donc toujours Ézéchiel chapitre 20, on lira les versets 32 à 44, donc jusqu'à la fin du chapitre 20. Ézéchiel 20, verset 32. Le rêve qui hante votre esprit ne se réalisera pas, car vous dites, nous voulons être comme les autres nations, comme les peuples des autres pays. Nous voulons aussi rendre un culte à des dieux en bois et en pierre. Aussi vrai que je suis vivant, le Seigneur l'Éternel le déclare, je régnerai sur vous en déployant ma force et ma puissance et en déchaînant ma colère. J'interviendrai en déployant ma force et ma puissance et en déchaînant ma colère pour vous faire sortir du milieu des peuples. Et je vous rassemblerai des pays étrangers où vous avez été dispersés. Je vous amènerai au désert, à l'écart des autres peuples. Et là, je vous jugerai face à face. Tout comme j'ai jugé vos ancêtres dans le désert d'Égypte, je vous jugerai vous aussi. Le Seigneur l'Éternel le déclare, je vous ferai passer sous ma houlette et je vous ramènerai dans le lieu de mon alliance. J'éliminerai du milieu de vous ceux qui se sont révoltés et qui se sont rendus coupables envers moi. Je les ferai sortir des pays étrangers où ils habitent, mais ils n'entreront pas dans le pays d'Israël et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Et maintenant, gens d'Israël, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Que chacun de vous aille adorer ses idoles. Et après cela, on verra bien si vous refusez de m'écouter et si vous continuez à me profaner, moi qui suis saint. par vos offrandes et par vos idoles. Car c'est sur ma montagne sainte, sur la haute montagne d'Israël, le Seigneur l'Éternel le déclare, que vous, toute la communauté d'Israël, c'est-à-dire tous ceux qui seront dans le pays, me rendront un culte. Là, je trouverai plaisir en vous. Là, je rechercherai vos offrandes et les prémices de vos dons et tout ce que vous me consacrerez. Je trouverai plaisir en vous comme au parfum apaisant. Quand je vous aurai fait sortir du milieu des peuples et que je vous aurai rassemblé des pays étrangers où vous aurez été dispersés, et je manifesterai par mon œuvre en votre faveur ma sainteté aux yeux des nations. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel quand je vous aurai ramené au pays d'Israël que j'ai juré de donner à vos ancêtres. Là aussi, vous vous souviendrez de votre conduite et de toutes les mauvaises actions par lesquelles vous vous êtes souillés. Vous serez pris de dégoût pour tout le mal que vous avez commis. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel quand j'agirai ainsi envers vous par égard pour ma renommée. Au lieu de vous traiter selon votre mauvaise conduite et vos actes dépravés, gens d'Israël, le Seigneur l'Éternel le déclare. Amen. Voilà. Dieu n'a pas laissé la parole à cette délégation du peuple qui est venue, mais Dieu avait un message important à leur adresser. Et le verset 32 nous dit, « Le rêve qui hante votre esprit ou la pensée qui hante votre esprit ne se réalisera pas. » Ce rêve dont parle Dieu ici, eh bien, c'était celui d'être comme les autres. Israël voulait être comme les autres nations. Être comme les autres. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui les empêche d'être comme les autres? Eh bien, il y a beaucoup de choses quand même qui les empêchent d'être comme les autres. Être le peuple de Dieu, eh bien, ça fait qu'on n'est pas tout à fait comme les autres peuples. Être le peuple de Dieu fait qu'on passe à côté de certaines opportunités, peut-être. Être le peuple de Dieu pour Israël veut dire qu'on respecte le Shabbat, qu'on respecte la circoncision. Voilà des choses qui mettent quelques barrières entre les autres nations et eux. Respecter le Shabbat veut dire tous les samedis passer à côté d'opportunités d'affaires. Prenons l'exemple de l'alimentation, les règles alimentaires que Dieu impose au peuple. Mais quelque part, ça les différencie des autres peuples. Pas évident dans ces conditions-là de lier des alliances avec les peuples étrangers. Nous voulons être comme les autres nations. Voici le rêve qui hante Israël. C'est vrai que dans la situation dans laquelle ils étaient à l'époque, déportés, exilés, ils pouvaient se dire, mais au final, Dieu nous a abandonnés, on peut désormais se débrouiller tout seul et faire comme les autres nations, tisser des alliances militaires, politiques, faire des affaires, se marier à des femmes étrangères, manger comme les autres. Et c'est vrai que être le peuple de Dieu, ce n'est pas toujours un cadeau. Ce n'est pas toujours un cadeau. Je me demande si nous, chrétiens, on a quelquefois cette pensée aussi. Est-ce que être chrétien, c'est toujours un cadeau? On aimerait vivre notre vie professionnelle, sentimentale, familiale, sociale, comme on voudrait. Mais la parole de Dieu nous donne des conseils, des consignes et même des ordres. Le rêve qui hante votre esprit ne se réalisera pas. Ce rêve-là, en fait, c'était pas tant d'adorer des idoles, parce que Dieu leur reproche, oui, vous voulez rendre des cultes à des dieux de bois et de pierre. C'était pas ça l'objectif premier. Mais c'est simplement à force de vouloir se conformer aux autres peuples, à force de vouloir devenir comme les autres, et bien c'est à ça que ça mène. Le conformisme poussé à outrance fait qu'il y a de moins en moins de place pour Dieu. C'est ça que Dieu dénonce. Si vous voulez être vraiment comme les autres nations, vous finirez par adorer leur Dieu de bois et de pierre. Voici la mise en garde. À ce rêve, Dieu va répondre en se révélant de trois manières. Il est dit trois fois dans le passage qu'on a lu, « Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel » au verset 38, 42 et 44. « Vous reconnaîtrez ». Face à ce rêve qui hante l'esprit d'Israël, Dieu se révèle d'abord comme un Dieu puissant, fort et redoutable. Il dit dans les versets qu'on a lus, « Je régnerai sur vous, verset 33, en déployant ma force et ma puissance. J'interviendrai avec force et puissance. Je déchaînerai ma colère, verset 34. Je vous amènerai au désert par la force. » Verset 36. « Tout comme j'ai jugé vos ancêtres dans le désert, je vous jugerai aussi face à face. » Verset 38. « J'éliminerai du milieu de vous ceux qui se sont révoltés et qui se sont rendus coupables envers moi. Je les ferai sortir des pays étrangers, mais ils n'entreront pas dans le pays d'Israël. » Voilà une parole pleine d'autorité, de force, de puissance, de colère. Face à ce rêve, Dieu rappelle à son peuple que c'est quand même lui, le Dieu. Il le rappelle, mais il dit quelque chose de très important. Il le dit au verset 37, « Je vous ferai passer sous ma houlette. » Et je vous ramènerai au lieu de mon... Pour ceux qui suivent, verset 37, je vous ramènerai au lieu de mon alliance. Je vous ramènerai au lieu de mon alliance. Voici donc le but. Cette colère, cette force, cette puissance que Dieu déchaîne a un but. Rappeler à son peuple l'alliance. Et tout ce que Dieu cite finalement est un rappel de ce qu'il a fait à l'époque où il a arraché Israël de l'esclavage en Égypte, où il a déchaîné sa colère, sa puissance contre l'Égypte, contre le Pharaon, où il a déchaîné sa colère dans le désert contre ceux du peuple qui ont murmuré quand le peuple a commencé à avoir faim et soif et que certains ont même préféré, ont même demandé à repartir, à retourner dans l'esclavage d'Égypte. Dieu a déchaîné sa colère à l'époque. Et quand Dieu dit « Je vous ferai passer sous ma houlette », on l'a vu dimanche dernier lors de la prédication de Sylvain où il a dit que c'est le bâton du berger. Mais Dieu fait référence aussi au fait qu'il marchera devant son peuple comme il a marché à l'époque de la sortie d'Égypte dans le désert. Dieu marchait devant son peuple. Dieu n'a pas changé et demeure fidèle à son alliance. Amen. Le peuple le verra et ils reconnaîtront. Reconnaîtront dans le sens de, oui, ils vont vraiment reconnaître, c'est-à-dire qu'ils vont dire, ah oui, vraiment, Dieu est fort, Dieu est puissant, Dieu est fidèle à son alliance. Mais reconnaître aussi dans le sens de se souvenir. Ils se souviendront. Notre Dieu est bien le même. Il est toujours là. Amen. Même exilé, même déporté, ce Dieu est là, prêt à déchaîner sa colère, sa puissance, pour rappeler qu'il demeurera fidèle à son alliance. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Dieu se révèle ensuite sous un angle plus bienveillant, plus doux, plus aimant. Il est dit dans les versets 39 à 42, « Eh bien, c'est sur ma montagne sainte, sur la haute montagne d'Israël, verset 40, que tous ceux qui seront dans le pays me rendront un culte. » Là, je trouverai plaisir en vous. Je rechercherai vos offrandes et les prémices de vos dons. On a vu dans un premier temps un Dieu en colère, un Dieu qui juge. Et là, le prophète nous dresse un tableau d'une relation harmonieuse entre Dieu et son peuple. Ce peuple aujourd'hui dispersé, exilé, éparpillé, eh bien, demain ils seront rassemblés comme le peuple de Dieu sur la sainte montagne de Dieu. Ce peuple aujourd'hui qui le profane, comme il est dit dans le verset 39, vous me profanez. Ce peuple qui cause la colère de Dieu, eh bien, demain, comme on l'a lu, un jour, eh bien, ils feront le plaisir de Dieu. Et Dieu recherchera même leurs offrandes et leurs dons. Ce peuple apparemment rejeté reprendra sa place du peuple de Dieu, le peuple saint pour un Dieu saint. Et là, Dieu nous dit dans le verset 41, à la fin de ce verset 41, « Je manifesterai par mon œuvre en votre faveur ma sainteté aux yeux des nations. » Les nations que Israël enviait tant, nous voulons être comme les autres. Le jour viendra où ces nations verront elles-mêmes, « Ah oui, combien ce peuple d'Israël est bien avec son Dieu. » Dieu manifestera sa faveur, sa sainteté en faveur d'Israël. Voici là aussi présenté une autre face de Dieu dont Israël est invité à se souvenir. C'est ce Dieu lent à la colère, riche en bienveillance, comme dit la parole de Dieu. Ce Dieu bon pasteur, bon berger, ce Dieu d'amour, ce Dieu qui les a accompagnés, qui a vaincu pour eux toutes les nations hostiles pendant leur conquête du pays promis. Ce Dieu-là n'est pas mort. Ce Dieu-là existe toujours.
Amen.
Le jour viendra où Israël reconnaîtra que le Dieu en qui il a mis sa confiance est bien le Dieu d'amour. Le verset 39 nous dit: pour l'instant, continuez dans vos profanations. Verset 39. Et maintenant, gens d'Israël, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Que chacun de vous aille adorer ses idoles. Que chacun de vous aille adorer ses idoles. Aujourd'hui, je serai pour vous un juge. Demain, je serai pour vous un bon berger. Pour l'instant, continuez à adorer vos idoles. Voici une parole pleine d'ironie. C'est comme un parent qui dira à son fils, vas-y, joue avec le fer, tu verras, le fer a repassé. Vas-y, joue encore, tu t'es pas assez brûlé, joue encore, tu verras. C'est une parole ironique, c'est pas une véritable invitation à persévérer dans l'idolâtrie, mais c'est une parole pour éveiller la conscience du peuple. Mais c'est aussi une parole pleine d'autorité d'un Dieu qui sait qu'il aura le dernier mot. Vas-y toujours, continue à adorer, mais le jour viendra où toi et moi nous serons à nouveau réunis ensemble et je trouverai mon plaisir en toi. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel et un jour votre cœur changera. Et c'est là le dernier point, la dernière facette que Dieu révèle de lui-même. Après s'être révélé comme un Dieu fort et puissant, mais aussi comme un Dieu tendre et aimant, Dieu va se révéler au peuple comme un Dieu de grâce. Le jour viendra. Le jour viendra où vous-même, vous aurez du dégoût. Du dégoût pour ce que vous avez commis comme mal. Le jour viendra où vous considérez tout ce que vous avez fait comme étant des souillures. C'est ce que nous lisons au verset 43. Vous vous souviendrez de votre conduite et de toutes les mauvaises actions par lesquelles vous vous êtes souillés, vous serez pris de dégoût pour tout le mal que vous avez commis. Et ce jour-là, verset 44, vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel quand j'agirai ainsi envers vous par égard pour mon nom ou pour ma renommée. Au lieu de vous traiter selon votre mauvaise conduite et vos actes dépravés, ce jour-là, Israël comprendra. Israël comprendra que Dieu ne les a pas traités comme ils auraient mérité. Et là, ils verront tout ce que Dieu aura fait comme une grâce, comme une faveur. Vous reconnaîtrez que je ne vous ai pas traité selon ce que méritaient vos actes. Et vous comprendrez aussi que si j'ai agi ainsi, dit l'Éternel, c'est pour ma renommée, c'est pour mon nom. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quelque chose qu'on lit souvent dans la Bible. Dieu fait des choses pour son nom. On peut se dire, oh, ça paraît un peu égocentrique, égoïste. Mais il y a un penseur chrétien qui disait que l'égoïsme de Dieu, c'est la vie du monde. Dire que Dieu a fait ce qu'il fait pour sa renommée et pour son nom, c'est dire simplement que Dieu n'a trouvé en l'homme aucune cause pour faire ce qu'il a fait. La seule cause qu'il a trouvée pour faire le bien qu'il a fait, eh bien, c'est en lui-même. Autrement dit, Dieu l'a fait parce qu'il est fidèle. Mais pourquoi Dieu est fidèle? Mais Dieu est fidèle parce qu'il est Dieu.
Amen.
Dieu l'a fait parce qu'il est bon. Mais pourquoi est-ce qu'il est bon? Mais il est bon parce qu'il est Dieu.
Amen.
Dieu jugera vos actes parce qu'il est juge. Mais pourquoi il est juge? Parce qu'il est Dieu. Voilà pourquoi Dieu fait tout ça pour son nom. Il n'y a pas d'autre cause. Et quand Israël le comprendra, ils seront pris de dégoût et ils découvriront en ce Dieu un Dieu de grâce. Ce Dieu qui ne traite pas selon nos actes, mais ce Dieu qui agit par sa propre fidélité, par sa propre bienveillance, par son propre amour. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel, votre Dieu, et que je n'ai pas changé depuis le jour où je vous ai arraché de l'esclavage en Égypte. Voilà un peu comment Dieu répond à ce rêve qui hante l'esprit d'Israël. Dieu nous montre qu'il est capable de déployer sa force, sa puissance. Dieu nous montre qu'il est capable de déployer son amour. Dieu se révèle dans sa grâce. Tout ça pour un but, être fidèle à son alliance, manifester son amour pour son peuple. Rien ne peut contre le plan de Dieu. Rien ne peut contre le projet de Dieu. Ce projet de Dieu de faire d'Israël un peuple saint pour un Dieu saint, rien ne pourra le changer ou l'empêcher. Même pas le rêve de ce peuple. Rien ne peut contre le projet de Dieu. Et on sait depuis 2000 ans aujourd'hui que cette alliance que Dieu a scellée avec Israël, il a scellée aussi avec toutes les nations. Par le sacrifice de son Fils Jésus-Christ, Dieu nous invite, hommes et femmes de toutes les nations, à entrer dans cette alliance, à tourner nos regards vers la croix et à voir en Jésus-Christ crucifié ce Dieu qui juge, car c'est nos péchés, c'est pour nos péchés que Jésus-Christ a été condamné. C'est bien aussi un acte de jugement. Dieu nous invite à lever nos yeux vers la croix afin de révéler son amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a offert son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Par la croix de Jésus, Dieu se révèle comme un Dieu de grâce.
Amen.
Parce qu'il nous dit en Romains, tous ont péché Ils sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Mais c'est par la foi en Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Dieu se révèle à nous aujourd'hui comme il se révèle à Israël, là, dans ce passage d'Ézéchiel. Ce Dieu qui juge, ce Dieu qui aime, mais au final, ce Dieu qui fait grâce. Alors, en conclusion de ce passage, j'aimerais nous interpeller sur deux points. Le premier point, comme j'ai dit, c'est le fait que rien ne peut empêcher le projet ou le plan de Dieu. Jésus-Christ a dit, « Je bâtirai mon Église et rien ne prévaudra contre elle. » On sait depuis Jésus-Christ que le plan de Dieu, c'est que des hommes et des femmes de toutes nations soient auprès de lui pour l'éternité, dans la fête, dans la joie, dans le repas. On sait aussi que le rêve du monde, quelquefois on a l'impression que le rêve de la société dans laquelle on vit, c'est finalement que on peut se passer de Dieu ou que Dieu n'existe pas. Le rêve du monde, c'est qu'il n'y a aucune différence, que finalement on soit tous pareils. Rien n'empêchera le plan et le projet de Dieu. Jésus-Christ, en Jean chapitre 10, dira, je suis le bon berger, mes brebis entendent ma voix. Elles me connaissent et je les connais. Autrement dit, rien n'empêchera aux brebis du Seigneur d'entendre la voix de leur Seigneur. Même pas les travers de l'Église elle-même. La fin du Nouveau Testament nous prévient que dans l'Église se lèveront des faux prophètes. Les Églises seront accusées d'être des sectes. Des évangiles bizarres seront prêchés. Et on l'entend. On l'entend encore aujourd'hui. Des serviteurs de Dieu eux-mêmes peut-être profaneront le nom de l'Éternel. Des enfants de Dieu eux-mêmes souilleront le nom de Dieu. Qu'importe, rien ni personne n'empêchera le plan de Dieu. Je bâtirai mon Église et rien ne prévaudra face à elle. Deuxième point, et je conclurai par là, c'est une interpellation individuelle. Dans le passage qu'on a lu, on a vu que le rêve qui hante Israël, quelque part, c'est de faire comme les autres nations, quitte même à renier son Dieu. Et pourquoi pas? Nous autres, aujourd'hui, je suppose, ici présents, on a aussi des rêves. Dieu n'est pas là pour briser nos rêves. On dit que, souvent dans le monde, le rêve, c'est le moteur de la vie. Et on cite en exemple des sportifs, des entrepreneurs qui se sont accrochés à leurs rêves. La Bible ne nous dit pas de ne pas avoir des rêves, de ne pas avoir de l'ambition, de ne pas chercher à réaliser ses rêves. Mais quand le monde nous dit « accroche-toi à tes rêves », nous disons « certes ». La Bible ne dit pas le contraire. « Accroche-toi à tes rêves, mon frère, ma sœur, à condition que ce rêve ne t'éloigne pas de Dieu. » Alors, face à ce dicton qui dit « accroche-toi à tes rêves », Dieu nous dit « accroche-toi à quelque chose d'encore plus solide et de plus fiable. Accroche-toi à ta foi. Accroche-toi à ta foi. Accroche-toi à ta foi. » Nos rêves, souvent, ne sont pas toujours bons. On a, avec ma femme, une amie qui a bientôt 35 ans et qui s'impatiente de trouver un époux, ce que on peut tout à fait comprendre. Elle a un rêve. Elle aimerait faire un enfant. Et donc elle s'est dit, bon, après tout, vu l'âge que je prends, je peux toujours trouver un mec, faire un enfant. Au moins, j'aurai mon enfant. Pour elle, accomplir son rêve, c'est ça. C'est légitime. C'est un besoin légitime. On a des rêves. Trouver du travail, faire des choses. Ça, c'est légitime. Mais quand on voit combien c'est difficile d'élever un enfant seul, je pense qu'elle ne s'imagine pas la galère dans laquelle elle risque de se mettre. C'est un exemple que je donne, mais c'est un exemple qui montre combien tous nos rêves ne sont pas bons pour nous. Tous nos rêves ne sont pas bons pour nous. Et Dieu, dans sa grâce, ne nous laissera pas réaliser tous nos mauvais rêves, même si on n'en a pas conscience. Et c'est pour ça que nous pouvons dire, là, dans ce passage, Dieu dit par la bouche de son prophète, « Je régnerai sur vous, même par la force. » Le chrétien n'attend pas que Dieu règne dans sa vie par la force. Le chrétien invite Dieu à régner dans sa vie. « Viens Seigneur, règne dans ma vie, règne même sur mes rêves. Accroche-toi, non pas à tes rêves, mais plutôt à ta foi. »
Amen.
Amen.